Chapitre 5. Les adieux. Il est en l'homme un phénomène désespérant pour les esprits méditatifs qui veulent trouver un sens à la marche des sociétés et donner des lois de progression au mouvement de l'intelligence. Quelque grave que soit un fait, et s'il pouvait exister des faits surnaturels, quelque grandiose que serait un miracle opéré publiquement, l'éclair de ce fait, la foudre de ce miracle, s'abîmerait dans l'océan moral, dont la surface, à peine troublée par quelques rapides bouillonnements, reprendrait aussitôt le niveau de ses fluctuations habituelles. Pour mieux se faire entendre, la voix passe-t-elle par la gueule de l'animal ? La main écrit-elle des caractères aux frises de la salle où se goberge la cour ? L'œil éclaire-t-il le sommeil du roi ? Le prophète vient-il expliquer le songe ? Le mort évoqué se dresse-t-il dans les régions lumineuses où revivent les facultés ? L'esprit écrase-t-il la matière au pied de l'échelle mystique des sept mondes spirituels arrêtés les uns sur les autres, dans l'espace et se révélant par des ondes brillantes qui tombent en cascade sur les marches du parvis céleste ? Quelque profonde que soit la révélation intérieure, quelque visible que soit la révélation extérieure, le lendemain, Balaam doute de son ânesse et de lui. Balthazar et Pharaon font commenter la parole par deux voyants, Moïse et Daniel. L'esprit vient, emporte l'homme au-dessus de la terre, lui soulève les mers, lui en fait voir le fond, lui montre les espèces disparues, lui ranime les eaux desséchées qui meublent de leur poudre la grande vallée. L'apôtre écrit l'Apocalypse. 20 siècles après, la science humaine approuve l'apôtre et traduit ses images en axiomes. Qu'importe, la masse continue à vivre comme elle vivait hier, comme elle vivait à la première Olympiade, comme elle vivait le lendemain de la création, ou la veille de la grande catastrophe. Le doute couvre tout de ses vagues. Les mêmes flots battent par le même mouvement le granit humain qui sert de borne à l'océan de l'intelligence. Après s'être demandé s'il a vu ce qu'il a vu, s'il a bien entendu les paroles dites, si le fait était un fait, si l'idée était une idée, l'homme reprend son allure. Il pense à ses affaires. Il obéit à je ne sais quel valet qui suit la mort, à l'oubli, qui de son manteau noir couvre une ancienne humanité dont la nouvelle n'a nul souvenir. L'homme ne cesse d'aller, de marcher, de pousser végétativement jusqu'au jour où la cognée là-bas. Si cette puissance de flot, si cette haute pression des eaux amères empêche tout progrès, elle prévient sans doute aussi la mort. Les esprits préparés pour la foi parmi les êtres supérieurs aperçoivent seule l'échelle mystique de Jacob. Après avoir entendu la réponse où Séraphita, si sérieusement interrogée, avait déroulé l'étendue divine, comme un orgue touché remplit une église de son mugissement et révèle l'univers musical en baignant de ses sons graves les voûtes les plus inaccessibles, en se jouant comme la lumière, dans les plus légères fleurs des chapiteaux. Wilfrid rentra chez lui tout épouvanté d'avoir vu le monde en ruine, et sur ces ruines, des clartés inconnues, épanchées à flot par les mains de cette jeune fille. Le lendemain, il y pensait encore, mais l'épouvante était calmée. il ne se sentait ni détruit ni changé. Ses passions, ses idées se réveillèrent fraîches et vigoureuses. Il alla déjeuner chez M. Becker et le trouva sérieusement plongé dans le traité des incantations qu'il avait feuilleté depuis le matin pour rassurer son hôte. Avec l'enfantine bonne foi du savant, le pasteur avait fait des plis aux pages où Jean Vierre rapportait des preuves authentiques qui prouvaient la possibilité des événements arrivés la veille. Car, pour les docteurs, une idée est un événement comme les plus grands événements sont à peine une idée pour eux. À la cinquième tasse de thé que prirent ces deux philosophes, la mystérieuse soirée devint naturelle. Les vérités célestes furent des raisonnements plus ou moins forts et susceptibles d'examen. Séraphita leur parut être une fille plus ou moins éloquente. Il fallait faire la part à son organe enchanteur, à sa beauté séduisante, à son geste fascinateur, à tous ses moyens oratoires par l'emploi desquels un acteur met dans une phrase un monde de sentiments et de pensées, tandis qu'en réalité, souvent la phrase est vulgaire. « Bah !» dit le bon ministre, en faisant une petite grimace philosophique pendant qu'il étalait une couche de beurre salé sur sa tartine. « Le dernier mot de ces belles énigmes est à 6 pieds sous terre. » « Néanmoins, » dit Wilfrid en sucrant son thé, « je ne conçois pas comment une jeune fille de 16 ans peut savoir tant de choses, car sa parole a tout pressé comme dans un étau. » « Mais, » dit le pasteur, « lisez donc l'histoire de cette jeune Italienne qui, dès l'âge de 12 ans, parlait 42 langues, tant anciennes que modernes, et l'histoire de ce moine qui, par l'odorat, devinait la pensée. Il existe dans Jean Vierre et dans une douzaine de traités, que je vous donnerai à lire, 1000 preuves pour une. D'accord, cher pasteur, mais pour moi, Séraphita doit être une femme divine à posséder. Elle est toute intelligence, répondit dubitativement M. Becker. Quelques jours se passèrent pendant lesquels la neige des vallées fondit insensiblement. Le vert des forêts poindit comme l'herbe nouvelle. La nature norvégienne fit les apprêts de sa parure pour ses noces d'un jour. Pendant ces moments où l'air adouci permettait de sortir, Séraphita demeura dans la solitude. La passion de Wilfrid s'accrut ainsi par l'irritation que cause le voisinage d'une femme aimée qui ne se montre pas. Quand cet être inexprimable reçut Mina, Mina reconnut en lui les ravages d'un feu intérieur. Sa voix était devenue profonde, son teint commençait à blondir. Et si jusque-là les poètes en eussent comparé la blancheur à celle des diamants, elle avait alors l'éclat des topazes. « Vous l'avez vu ?» dit Wilfrid, qui rôdait autour du château suédois et qui attendait le retour de Mina. « Nous allons le perdre, » répondit la jeune fille, dont les yeux se remplirent de larmes. « Mademoiselle !» s'écria l'étranger, en réprimant le volume de voix qui excite la colère. « Ne vous jouez pas de moi. Vous ne pouvez aimer Séraphita que comme une jeune fille en aime une autre, et non de l'amour qu'elle m'inspire. Vous ignorez quel serait votre danger si ma jalousie était justement alarmée. Pourquoi ne puis-je aller près d'elle? Est-ce vous qui me créez des obstacles? J'ignore, répondit Mina, calme en apparence, mais en proie à une profonde terreur. De quel droit vous sondez ainsi mon cœur? « Oui, je l'aime, » dit-elle en retrouvant la hardiesse des convictions pour confesser la religion de son cœur. « Mais ma jalousie, si naturelle à l'amour, ne redoute ici personne. Hélas, je suis jalouse d'un sentiment caché qui l'absorbe. Il est entre lui et moi des espaces que je ne saurais franchir. Je voudrais savoir qui des étoiles ou de moi l'aime mieux, qui de nous se dévouerait plus promptement à son bonheur. Pourquoi ne serais-je pas libre de déclarer mon affection? En présence de la mort, nous pouvons avouer nos préférences. Hé, monsieur, Séraphitus va mourir. Mina, vous vous trompez. La sirène que j'ai si souvent baignée de mes désirs et qui se laissait admirer coquettement étendue sur son divan, gracieuse, faible et dolente, n'est pas un jeune homme. Monsieur, répondit Mina troublée. Celui dont la main puissante m'a guidée sur le Falberg, à ce seul heure abrité par le bonnet de glace, là, dit-elle en montrant le haut du pic, n'est pas non plus une faible jeune fille. Ah, si vous l'aviez entendu prophétisant, sa poésie était la musique de la pensée. Une jeune fille n'eût pas déployé les sons graves de la voix qui me remuait l'âme. Mais quelle certitude avez-vous? Dit Wilfrid. Aucune autre que celle du cœur, répondit Mina, confuse, en se hâtant d'interrompre l'étranger. Eh bien, moi, s'écria Wilfrid en jetant sur Mina l'effrayant regard du désir et de la volupté qui tue, moi, qui sais aussi combien est puissant son empire sur moi, je vous prouverai votre erreur. En ce moment où les mots se pressaient sur la langue de Wilfrid, aussi vivement que les idées abondaient dans sa tête, il vit Séraphita sortant du château suédois, suivi de David. Cette apparition calma son effervescence. « Voyez, dit-il, une femme peut seule avoir cette grâce et cette mollesse. Il souffre et se promène pour la dernière fois, dit Mina. » David s'en alla sur un signe de sa maîtresse, au-devant de laquelle vinrent Wilfrid et Mina. « Allons jusqu'aux chutes de la Sigue, » leur dit cet être en manifestant un de ces désirs de malade auxquels on s'empresse d'obéir. Un léger brouillard blanc couvrait alors les vallées et les montagnes du fjord, dont les sommets, étincelants comme des étoiles, le perçaient en lui donnant l'apparence d'une voie lactée en marche. Le soleil se voyait à travers cette fumée terrestre comme un globe de fer rouge. Malgré ces derniers jeux de l'hiver, quelques bouffées d'air tiède, chargées des senteurs du bouleau, déjà parées de ces blondes efflorescences et pleines des parfums exhalés par les mélésées dont les houppes de soie étaient renouvelées, ces brises échauffées par l'encens et les soupirs de la terre, attestaient le beau printemps du nord, rapide joie de la plus mélancolique des natures. Le vent commençait à enlever ce voile de nuages qui dérobait imparfaitement la vue du golfe. Les oiseaux chantaient. L'écorce des arbres, où le soleil n'avait pas séché la route des frimas qui en étaient découlés en ruisseaux murmurants, égayait la vue par de fantastiques apparences. Tous trois cheminaient en silence, le long de la grève. Wilfrid et Mina contemplaient seuls ce spectacle magique pour eux qui avaient subi le tableau monotone de ce paysage en hiver. Leurs compagnons marchaient, pensifs, comme s'ils cherchaient à distinguer une voix dans ce concert. Ils arrivèrent au bord des rochers, entre lesquels s'échappait la Sigue, au bout de la longue avenue bordée de vieux sapins que, le cours du torrent avait onduleusement tracé dans la forêt, sentiers couverts en arceaux, à forte nervure, comme ceux des cathédrales. De là, le fjord se découvrait tout entier, et la mer étincelait à l'horizon, comme une lame d'acier. En ce moment, le brouillard dissipé laissait voir le ciel bleu. Partout dans les vallées, autour des arbres, voltigèrent encore des parcelles étincelantes, poussières de diamants, balayées par une brise fraîche, magnifiques chatons de gouttes suspendus au bout des rameaux en pyramide. Le torrent roulait au-dessus d'eux. De sa nappe s'échappait une vapeur, teinte de toutes les nuances de la lumière par le soleil, dont les rayons s'y décomposaient en dessinant des écharpes aux sept couleurs, en faisant jaillir les feux de mille prismes dont les reflets se contrariaient. Ce quai sauvage était tapissé par plusieurs espèces de lichens, belle étoffe moirée par l'humidité, et qui figurait une magnifique fenture de soie. Des bruyères déjà fleuries couronnaient les rochers de leurs guirlandes habilement mélangées. Tous les feuillages mobiles, attirés par la fraîcheur des eaux, laissaient pendre au-dessus leurs chevelures. Les mélèzes agitaient leurs dentelles en caressant les pins, immobiles comme des vieillards soucieux. Cette luxuriante parure avait un contraste, et dans la gravité des vieilles colonnades que décrivaient les forêts étagées sur les montagnes, et dans la grande nappe du fjord étalée au pied des trois spectateurs, et où le torrent noyait sa fureur. Enfin la mer encadrait cette page écrite par le plus grand des poètes, le hasard auquel est dû le pêle-mêle de la création en apparence abandonnée à elle-même. Jarvis était un point perdu dans ce paysage, dans cette immensité, sublime comme tout ce qui, n'ayant qu'une vie éphémère, offre une rapide image de la perfection. Car, par une loi fatale à nos yeux seulement, les créations en apparence achevées, cet amour de nos cœurs et de nos regards, n'ont qu'un printemps ici. En haut de ce rocher, certes, ces trois êtres pouvaient se croire seuls dans le monde. Quelle volupté ! S'écria Wilfrid. La nature a ses hymnes, dit Séraphita. Cette musique n'est-elle pas délicieuse ? Avouez-le, Wilfrid. Aucune des femmes que vous avez connues n'a pu se créer une si magnifique retraite. Ici, j'éprouve un sentiment rarement inspiré par le spectacle des villes et qui me porterait à demeurer couché au milieu de ces herbes, si rapidement venues, là, les yeux au ciel, le cœur ouvert, perdu au sein de l'immensité, je me laisserai aller à entendre le soupir de la fleur qui, à peine dégagée de sa primitive nature, voudrait courir, et les cris de l'aider impatient de n'avoir encore que des ailes, en me rappelant les désirs de l'homme qui tient de tous et qui lui aussi désire. Mais ceci, Wilfrid, est de la poésie de femme. Vous apercevez une voluptueuse pensée dans cette fumeuse étendue liquide, dans ces voiles brodés où la nature se joue comme une fiancée coquette, et dans cette atmosphère où elle parfume pour ses hyménées sa chevelure verdâtre. Vous voudriez voir la forme d'une naïade dans cette gaze de vapeur? Et selon vous, je devrais écouter la voix mâle du torrent. L'amour n'est-il pas là, comme une abeille dans le calice d'une fleur, répondit Wilfrid, qui, pour la première fois apercevant en elle les traces d'un sentiment terrestre, crut le moment favorable à l'expression de sa bouillante tendresse. Toujours donc, répondit donc en riant Séraphita, que Mina avait laissée seule. L'enfant gravissait un rocher où elle avait aperçu des saxifrages bleus. Toujours, répéta Wilfrid. Écoutez-moi, dit-il en lui jetant un regard dominateur, qui rencontra comme une armure de diamant. Vous ignorez ce que je suis, ce que je peux et ce que je veux. Ne rejetez pas ma dernière prière. Soyez à moi, pour le bonheur du monde que vous portez en votre cœur. Soyez à moi pour que j'aie une conscience pure, pour qu'une voix céleste résonne à mon oreille, en m'inspirant le bien, dans la grande entreprise que j'ai résolue, conseillée par ma haine contre les nations, mais que j'accomplirai alors pour leur bien-être, si vous m'accompagnez. Quelle plus belle mission donneriez-vous à l'amour? Quel plus beau rôle une femme peut-elle rêver? Je suis venu dans ces contrées en méditant un grand dessein. Et vous en sacrifierez, dit-elle, les grandeurs à une jeune fille bien simple, que vous aimerez et qui vous mènera dans une voie tranquille. Que m'importe, je ne veux que vous, répondit-il en reprenant son discours. Sachez mon secret. J'ai parcouru tout le Nord, ce grand atelier où se forgent les races nouvelles qui se répandent sur la terre comme des nappes humaines chargées de rafraîchir les civilisations vieillies. Je voulais commencer mon œuvre sur un de ces points, y conquérir l'empire que donne la force et l'intelligence sur une peuplade, la former au combat, entamer la guerre, la répandre comme un incendie, dévorer l'Europe en criant liberté à ceux-ci, pillage à cela, gloire à l'un, plaisir à l'autre. Mais en demeurant, moi, comme la figure du destin, implacable et cruel, en marchant comme l'orage qui s'assimile dans l'atmosphère toutes les particules dont se compose la foudre, en me repaissant d'homme comme un fléau vorace. Ainsi j'aurais conquis l'Europe. Elle se trouve à une époque où elle attend ce messie nouveau qui doit ravager le monde pour en refaire les sociétés. L'Europe ne croira plus qu'à celui-là, celui qui la broiera sous ses pieds. Un jour, les poètes, les historiens auraient justifié ma vie, m'auraient grandi, m'auraient prêté des idées à moi pour qui cette immense plaisanterie écrite avec du sang n'est qu'une vengeance. Mais, chère Séraphita, mes observations m'ont dégoûté du Nord. La force y est trop aveugle, et j'ai soif des Indes. Mon duel avec un gouvernement égoïste, lâche et mercantile, me séduit davantage. Puis il est plus facile d'émouvoir l'imagination des peuples assis au pied du Caucase que de convaincre l'esprit des pays glacés où nous sommes. Donc, je suis tenté de traverser les steppes russes, d'arriver au bord de l'Asie, de la couvrir jusqu'au Gange, de ma triomphante inondation humaine, et là je renverserai la puissance anglaise. Sept hommes ont déjà réalisé ce plan à diverses époques. Je renouvellerai l'art, comme l'ont fait les Sarrasins lancés par Mahomet sur l'Europe. Je ne serai pas un roi mesquin comme ceux qui gouvernent aujourd'hui les anciennes provinces de l'Empire romain en se disputant avec leurs sujets à propos d'un droit de douane. Non, rien n'arrêtera ni la foudre de mes regards, ni la tempête de mes paroles. Mes pieds couvriront un tiers du globe, comme ceux de Gengis Khan. Ma main saisira l'Asie, comme l'a déjà prise celle d'Aurangzeb. Soyez ma compagne, asseyez-vous, belle et blanche figure, sur un trône. Je n'ai jamais douté du succès. Mais soyez dans mon cœur. J'en serai sûr. J'ai déjà régné, dit Séraphita. Ce mot fut comme un coup de hache donné par un habile bûcheron dans le pied d'un jeune arbre qui tombe aussitôt. Les hommes seuls peuvent savoir ce qu'une femme excite de rage en l'âme d'un homme quand, voulant démontrer à cette femme aimée sa force ou son pouvoir, son intelligence ou sa supériorité, la capricieuse penche la tête et dit « Ce n'est rien ». Quand blasée, elle sourit et dit « Je sais cela ». Quand pour elle, la force est une petitesse. Comment ? Cria Wilfrid au désespoir. Les richesses des arts, les richesses des mondes, les splendeurs d'une cour. Elle l'arrêta par une seule inflexion de ses lèvres et dit : Des êtres plus puissants que vous ne l'êtes m'ont offert davantage. Eh bien, tu n'as donc pas d'âme ? Si tu n'es pas séduite par la perspective de consoler un grand homme qui te sacrifiera tout pour vivre avec toi dans une petite maison au bord d'un lac. Mais, dit-elle, je suis aimée d'un amour sans bornes. Par qui ? S'écria Wilfrid en s'avançant par un mouvement de frénésie vers Séraphita pour la précipiter dans les cascades écumeuses de la Sigue. Elle le regarda. Son bras le détendit. Elle lui montrait Mina qui accourait blanche et rose, jolie comme les fleurs qu'elle tenait à la main. « Enfant !» dit Séraphitus en allant à sa rencontre. Wilfrid demeura sur le haut du rocher, immobile comme une statue, perdu dans ses pensées, voulant se laisser aller au cours de la Sigue comme un des arbres tombés qui passait sur ses yeux et disparaissait au sein du golfe. « Je les ai cueillis pour vous, » dit Mina, qui présenta son bouquet à l'être adoré. « L'une d'elles, celle-ci, » dit-elle en lui présentant une fleur, « est semblable à celle que nous avons trouvée sur le Falberg. » Séraphitus regarda tour à tour la fleur et Mina. « Pourquoi me fais-tu cette question ? Doutes-tu de moi ? Non, dit la jeune fille. Ma confiance en vous est infinie. Si vous êtes pour moi plus beau que cette belle nature, vous me paraissez aussi plus intelligent que ne l'est l'humanité tout entière. Quand je vous ai vu, je crois avoir prié Dieu. Je voudrais. Quoi ? Dit Séraphitus en lui lançant un regard par lequel il révélait à la jeune fille l'immense étendue qui les séparait. Je voudrais souffrir en votre place. Voici la plus dangereuse des créatures, se dit Séraphitus. Est-ce donc une pensée criminelle que de vouloir te la présenter ? Oh mon Dieu, ne te souviens-tu plus de ce que je t'ai dit là-haut ? Reprit-il en s'adressant à la jeune fille et lui montrant la cime du bonnet de glace. Le voilà redevenu terrible, se dit Mina frémissant de crainte. La voix de la cigue accompagna les pensées de ces trois êtres qui demeurèrent pendant quelques moments réunis sur une plateforme de rochers en saillie, mais séparés par des abîmes dans le monde spirituel. « Eh bien, Séraphitus, enseignez-moi, » dit Mina d'une voix argentée comme une perle et douce comme un mouvement de sensitive. « Apprenez-moi ce que je dois faire pour ne point vous aimer. » Qui ne vous admirerait pas ? L'amour est une admiration qui ne se lasse jamais. Pauvre enfant, dit Séraphitus en pâlissant. On ne peut aimer ainsi qu'un seul être. Qui ? Demanda Mina. Tu le sauras, répondit-il avec la voix faible d'un homme qui se couche pour mourir. « Au secours, il se meurt !» s'écria Mina. Wilfrid accourut, et voyant cet être gracieusement posé dans un fragment de gneiss sur lequel le temps avait jeté son manteau de velours, ses lichens lustrés, ses mousses fauves que le soleil satinait, il dit « Elle est bien belle. » Voici le dernier regard que je pourrais jeter sur cette nature en travail. Dit-elle en se rassemblant avec ses forces pour se lever. Elle s'avança sur le bord du rocher, d'où elle pouvait embrasser, fleurie, verdoyant, animée, les spectacles de ce grand et sublime paysage, ensevelie naguère sous une tunique de neige. Adieu, dit-elle. Foyer brûlant d'amour, où tout marche avec ardeur du centre aux extrémités, et dont les extrémités se rassemblent comme une chevelure de femme, pour tresser la natte inconnue par laquelle tu te rattaches dans les terres indiscernables. À la pensée divine. Voyez-vous celui qui, courbé sur un sillon arrosé de sa sueur, se relève un moment pour interroger le ciel, celle qui recueille les enfants pour les nourrir de son lait, celui qui noue les cordages au fort de la tempête, celle qui reste assise au creux d'un rocher, attendant le Père. Voyez-vous, tous ceux qui tendent la main après une vie consommée en d'ingrats travaux, à tous, paix et courage à tous. Adieu. Entendez-vous le cri du soldat mourant inconnu, et la clameur de l'homme trompé qui pleure dans le désert. À tous, paix et courage, à tous, adieu, adieu, vous qui mourrez pour les rois de la terre. Mais adieu aussi, peuple sans patrie. Adieu, terre sans peuple, qui vous souhaitez les uns les autres. Adieu surtout à toi, qui ne sais où reposer ta tête, proscrit sublime. Adieu, chères innocentes traînées par les cheveux pour avoir trop aimé. Adieu, mères assises auprès de vos fils mourants. Adieu, saintes femmes blessées. Adieu, pauvres. Adieu, petit, faible et souffrant, vous, de qui j'ai si souvent épousé les douleurs. Adieu, vous tous, qui gravitez dans la sphère de l'instinct, en y souffrant pour autrui. Adieu, navigateur qui cherchait l'Orient à travers les ténèbres épaisses de vos abstractions vastes comme des principes. Adieu, martyr de la pensée mené par elle à la vraie lumière. Adieu, sphère studieuse où j'entends la plainte du génie insulté, le soupir du savant éclairé trop tard. Voici le concert angélique, la brise de parfum, l'encens du cœur exhalé par ceux qui vont priant, consolant, répandant la lumière divine et le baume céleste dans les âmes tristes. Courage, cœur d'amour, vous qui les peuples crient, consolez-nous, défendez-nous. Courage et adieu, adieu granit, tu deviendras fleur. Adieu fleur, tu deviendras colombe. Adieu colombe, tu seras femme. Adieu femme, tu seras souffrance. Adieu homme, tu seras croyance. Adieu vous, qui serait tout amour et prière. Abattu par la fatigue, cet être inexpliqué s'appuya pour la première fois sur Wilfrid et sur Mina pour revenir à son logis. Wilfrid et Mina se sentirent alors atteints par une contagion inconnue. À peine avait-il fait quelques pas, David se montra pleurant. Elle va mourir, pourquoi l'avez-vous emmenée jusqu'ici? S'écria-t-il de loin. Séraphita fut emportée par le vieillard, qui retrouva les forces de la jeunesse et voilà qu'il vola jusqu'à la porte du château suédois comme un aigle, emportant quelques blanches brebis dans son air.